Je voudrais dédier cette présentation à Maurice Bormans, qui depuis très longtemps avait le projet de traduire Elit Khan. Et quand je lui ai dit que moi-même j'avais ce projet il y a 7 ans, il m'a beaucoup encouragé et il en était fort heureux. Je regrette qu'il n'en ait pas vu la réalisation. La chose la plus normale serait que je vous parle de ce livre, le parfait manuel des sciences coraniques, des Suyuti, de façon descriptive, en vous disant sommairement ce qu'il contient pour vous montrer son importance. Mais il m'a semblé que pour ce faire, il suffisait de lire la table des matières de ces 80 chapitres, alors je m'en abstiendrai. Et je concentrerai plutôt mon attention sur une chose moins évidente, à savoir quel fut le souci, que dis-je, le tourment de l'auteur qui sous-tend l'écriture de ce livre. En effet, comme nous le découvrirons, cette impulsion que j'appelle l'obsession de la parole est un comportement qui parcourt toute l'histoire de l'islam, des origines jusqu'à nos jours, et qui la précède même. Pour ce faire, je m'appuierai sur les textes d'Elit Khan, afin d'être le plus objectif possible, mais également je laisserai place à l'interprétation subjective, car le texte renferme des non-dits qui doivent être explicités. La volonté des Suyuti, clairement exprimée dans Elit Khan, est d'aboutir à une œuvre totalisante, un commentaire tellement complet qu'il puisse dispenser de tous les autres, passés et à venir, et dont Elit Khan serait la parfaite introduction. J'ai déjà commencé un commentaire coranique, dit-il, qui rassemblera tout ce dont on a besoin comme commentaire traditionnel, propos déjà énoncés, déductions, allusions, analyses, aspects lexicaux, traits d'éloquence, mérites des figures, rhétoriques, etc., de telle façon qu'on n'aura plus besoin d'un autre commentaire. Je l'ai intitulé « Majma' al-Bahrain » ou « Matla' al-Badrain », le confluent des deux mers et le levant des deux lunes. Il s'agit du commentaire pour lequel j'ai fait de ce livre une introduction. Alors cette introduction, à savoir Elit Khan, a déjà fait l'objet d'une ébauche dans une œuvre précédente intitulée « At-Tahbir fi Ulum al-Tafsir », élégante composition sur les sciences du commentaire. Mais par la suite, il reprendra l'œuvre de Jalal ed-Din al-Bulqini et celle de Zarkashi. Arrivé à ce point, il conclura que son œuvre est désormais exhaustive et insurpassable. On boira à ces fraîches fontaines, dit-il, de quoi se désaltérer pour ne plus jamais avoir soif après cela. En présentant Elit Khan comme l'introduction de son commentaire coranique en chantier, il fait comprendre que ce manuel sera lui aussi la somme et l'aboutissement définitif de ce genre d'œuvre. Dans l'exposé qui va suivre, après avoir montré comment l'auteur procède pour être ainsi totalisant, nous conclurons notre propos en essayant de comprendre comment se légitime chez lui cette obsession de vouloir tout englober, d'abord au plan phénoménal de sa personnalité, et ensuite au plan essentiel de ses convictions. Pour arriver à ses fins totalisantes, l'auteur d'Elitran se sert avant tout de deux procédés. Celui des paramètres du temps et de l'espace, et celui de l'inventaire et de la dénomination, de façon de tenter d'avoir une emprise sur toute la réalité exprimée intégralement par le texte coranique. Une fois accomplie cette tentative, il en arrive aux conséquences pratiques que sont le recueil, la mémorisation, la transmission, la récitation et l'écriture. Pour cadrer et embrasser la réalité de façon exhaustive, il suffit de croiser les deux paramètres du temps et de l'espace. Le commentateur entrevoit dès la première sourate l'ébauche d'une telle perspective. Dieu se présente d'abord comme étant le Seigneur des univers, Rabb al-Alamin, c'est-à-dire de l'espace, et ensuite comme le roi du jour du jugement, Malik Yawmiddin, c'est-à-dire du temps, sachant que le jour du jugement récapitule toute la durée de l'histoire depuis le début de la création. La notion d'espace chez Es-Suyuti est tantôt réelle, tantôt métaphorique et tantôt mixte. Ainsi envisage-t-il tour à tour, à propos du livre, ses espaces physiques, linguistiques, culturel et textuel. L'espace physique concerne les lieux géographiques de la descente, Mecque et Médine, bien sûr, mais aussi d'autres lieux entre les deux ou ailleurs, tels que Jurfa, Ta'if, El-Hudaybiyya, etc. Il y a ce qui est descendu à Mecque et qui est attribué à Médine, et vice-versa. Il y a ce qui est descendu à Médine et qui est attribué à l'Abyssinie. Il y a ce qui est descendu à Mecque et dont le statut est médinois, et vice-versa. Avec plus de précision spatiale, l'auteur parle de descente sédentaire et de descente itinérante. Enfin, de façon plus globale, il y a la descente terrestre et la descente céleste. Tout en notant que les versets descendus durant le voyage nocturne se situent entre ciel et terre, et que tous ceux qui sont descendus dans la caverne d'El-Hira sont souterrains, tout le reste étant purement terrestre. Ainsi se résume l'ensemble des dimensions de l'espace physique. Liés à l'espace physique, il y a les espaces linguistiques du livre, relatifs à différentes aires géographiques. En premier lieu, Es-Suyuti envisage les espaces linguistiques tribaux de la péninsule arabique. Il rapporte que, selon Abul Qasim, le livre utiliserait 30 dialectes autres que la langue d'El-Hijaz. El-Wasiti en compte 50. Voici un exemple parmi des centaines. Il s'agit de Coran 17:58. Fil kitabi masturan. Raconté dans le livre. Comprend-on généralement? Ce qui n'est pas juste, car mastour est une expression himyarite qui signifie écrit, puisque oustour veut dire Kitab. Donc il faut comprendre écrit dans un livre. En deuxième lieu, notre auteur nous amène dans les espaces linguistiques non arabes du Coran. Il rapporte les grands débats que cette question a suscité dans l'histoire entre ceux qui affirment que le livre ne contient que du pur arabe en s'appuyant sur Coran 41, verset 44. Et ceux qui montrent, preuves en main, qu'il contient aussi des termes non arabes. Selon ces derniers, serait utilisé le persan, la langue des gens de l'Occident, l'ourat ahl al-maghrib, l'hindou, l'abyssin, l'hébreu, l'araméen, une langue inconnue et lointaine, zendjiya, le berbère, le copte, le grec, et la langue des gens de l'Afrique, lisan ahl ifriqiya. Enfin, en troisième lieu, Es-Suyuti nous conduit jusqu'à l'espace linguistique universel et absolu, quand il aborde le chapitre de l'inimitabilité coranique, car autant grâce au défi et tahaddi que grâce au pouvoir incapacitant du Coran, al-Ya'jaz, les auteurs cités nous montrent que la langue coranique est inégalable, parce qu'elle réduit à néant tout autre langage possible, désormais révolu, et que par le fait même, elle devient la langue unique et absolue. Plus largement, selon les auteurs cités par Es-Suyuti, le livre embrasse tout l'espace culturel, pris dans son sens le plus large. Ils partent du verset 16-89. Nous avons fait descendre sur toi le livre comme éclaircissement de toutes choses. Et cela, pour fonder leur assertion selon laquelle le Coran serait le réceptacle de toutes les sciences, de la religion, de la morale, du droit, de la linguistique, de la logique, de l'histoire, de la tradition, de l'astronomie, de la médecine, de la géométrie, de l'algèbre, de la géomancie, etc. De même, il contiendrait tous les arts manuels, tels que la couture, le forgeage, la menuiserie, le tissage, l'agriculture, la chasse, la pêche, etc. En conclusion, nous arrivons avec notre auteur à la délimitation de l'espace textuel proprement dit. Il nous amène d'abord à considérer le haut, el-Ali, et le bas, el-Nazil, des chaînes qui ont servi à transmettre le texte coranique, c'est-à-dire le degré de proximité plus ou moins fort par rapport à la source originale. Ensuite, il s'attaque au problème pratique de la séparation des versets et de l'ouverture et de la fermeture des sourates. L'exemple le plus notoire dans ce dernier cas est celui de la sourate El-Anfal, 8, et de la sourate El-Tauba, 9. L'absence de basmala au début de la sourate El-Tauba, d'une part, et l'identité des rimes à la fin de la sourate 8 et au début de la sourate 9, d'autre part, laisserait supposer qu'il s'agit d'une seule et même sourate, donc d'un espace textuel ininterrompu. Tel est en résumé, très succinct, la façon selon laquelle Es-Suyuti utilise le paramètre de l'espace pour englober la réalité. L'utilisation de l'autre paramètre, celui du temps, a la même fonction, cerner et prendre possession du texte qui résume la réalité entière. L'auteur insiste d'abord sur les moments de la descente, puis il situe la descente dans le temps de la longue histoire de la révélation et celui de son histoire immédiate. Enfin, il note minutieusement les temps qui font partie intégrante du texte. Les moments quotidiens de la descente sont ceux de la nuit et du jour. Les moments annuels de la descente sont l'été et l'hiver. Nous avons également les passages coraniques révélés au moment du repos, à l'état de veille, et ceux qui le sont au moment du sommeil dans un songe. La descente dans le temps de la longue durée de l'histoire concerne la révélation faite aux prophètes antérieurs et à Mohammed. Et ici, il faut distinguer avec l'auteur ce qui a été révélé uniquement à certains prophètes antérieurs, ce qui a été révélé uniquement à Mohammed, ce qui a été révélé à Mohammed et à quelques prophètes antérieurs comme David, et ce qui a été révélé à tous, y compris Mohammed. En ce qui concerne le temps de l'histoire immédiate, Es-Suyuti rappelle les grands débats entre savants pour savoir ce qui est descendu en premier et ce qui est descendu en dernier. Ce qui est descendu fragmenté, c'est-à-dire tout au long du temps de la révélation, et ce qui est descendu en entier, en un seul instant, par exemple lors de la nuit du destin. Enfin, l'auteur relate les divergences à propos de ce dont la descente est première par rapport à la décision et à l'application, comme l'aumône qui est mentionné à Mecque et qui n'est rendu obligatoire qu'à Médine, et à propos de ce dont l'obligation mécoise précède la révélation médinoise. Par exemple, l'ablution rituelle et la prière du vendredi. Notre parfait manuel rapporte en détail les marques du temps dans le texte. La première est celle de la répétition. Le même verset peut descendre à plusieurs reprises à cause de son importance. Chaque verset ou presque est l'occasion d'une pause dont la longueur varie et d'une reprise. Les voyelles et les syllabes sont sujettes à allongement ou raccourcissement, en fonction des règles canoniques de la lecture. De même, le texte est sujet à concision ou à prolixité, en fonction des règles du beau langage. Pour obtenir des nuances importantes du sens, on procède à l'antéposition de ce qui est normalement postposé et vice-versa. Normalement, tout verset abrogeant doit être postérieur dans le temps à ce qu'il abroge, sauf de rares exceptions, ce qui donne lieu à de grands débats et à de grosses divergences d'opinion. Le paramètre de l'espace et du temps servent donc à encadrer le texte coranique qui exprime toute la réalité existante. C'est ce que nous montre l'auteur du parfait manuel. Mais cela ne suffit pas, car encore faut-il connaître ce que ce cadre contient pour pouvoir exercer une emprise effective sur la réalité. Et tout en faisant l'inventaire, il faut procéder à la dénomination de ce qui est inventorié pour en prendre possession. Notre auteur procède la plupart du temps à une dénomination immédiate et réserve à certains cas précis des chapitres spéciaux de dénomination. Le premier inventaire concerne évidemment les sourates, les versets, les paroles et les lettres du texte coranique. Tout cela varie selon les recueils consultés. Dans le recueil de Ubay, il y a 109 sourates, par rapport à la version actuellement officielle de 114 sourates, manquent les sourates 14, 25, 35, 41, 43, 76 et 85. Et sont ajoutées la sourate El-Khala, le désaveu, et la sourate El-Hafd, la course. Dans le recueil d'Ibn Mas'ud, il y a 98 sourates. Manquent les sourates 1, 50, 57, 69, 113 et 114 par rapport à la version actuellement officielle. Les versets seraient au nombre de 6616, les paroles de 77934 et les lettres de 323671. Évidemment, tout cela est sujet à de grands débats entre les savants cités par Essoyouti, car tous n'ont pas la même façon de compter et ne se réfèrent pas au même recueil, d'où des divergences et des différences notoires. Un second inventaire que l'auteur et ses prédécesseurs entreprennent est celui des particules, des chevilles de langage et des prépositions du texte coranique, comme « inna »,« anna », »,« bi », »,« li », etc., qu'ils recensent au nombre de 110 et qu'ils expliquent au fur et à mesure. Dans un troisième inventaire, Essouyouti fait le point sur les expressions étranges du Coran. Et pour ce faire, il rapporte les 189 questions de Nafi' ben el-Azraq que ce dernier aurait posé à Ibn Abbas à leur sujet. Ce dossier est fort utile en soi, parce qu'il donne le sens de termes difficiles et il est significatif du souci d'intégrer et de récupérer le Diwan al-Arab, à savoir l'énorme corpus de la poésie pré-islamique, dans le commentaire coranique. En effet, Ibn Abbas répond à chaque question en citant un vers de l'Abid el-A'sha d'Imru ul-Qais et de tant d'autres poètes de la Jahiliya. Puis vient l'important inventaire des formes rhétoriques, comme le sens figuré, la métaphore, la comparaison, la métonymie, l'allusion, etc. Elles sont au nombre de 77. Ce recensement est particulièrement soigné, car il est à la base de la démonstration de l'inimitabilité coranique. Enfin, nous avons l'inventaire des catégories du langage, comme le sûr et l'équivoque, le général et le particulier, le vague et le précis, l'absolu et le conditionné, l'informative et le performative, etc. Elles sont au nombre de 29. Il y aurait encore à citer un inventaire transversal aux 80 chapitres du Parfait Manuel, à savoir le cumul impressionnant des divergences entre savants à propos de toutes les questions qui y sont abordées. Un seul exemple, au sujet de la définition du terme « harf »,« ahrof », que l'on traduit généralement par « lecture » ou « version coranique ». Essouyouti commence par dire qu'il y a 40 opinions différentes au sujet de la compréhension de ce terme. Il en expose 16. Puis, il rend compte des 35 opinions relatées par Ibn Hibban. À la fin, comme le dit El-Mursi, on ne sait plus quoi en penser. Aussi ai-je renoncé à traduire ce terme, sauf dans de rares cas où la compréhension me semblait contextuellement évidente. Jusqu'ici, tout ce qui est inventorié est en même temps dénommé. Mais l'auteur réserve à quelques réalités des chapitres spéciaux de dénomination. C'est le cas pour les noms du Coran, des sourates et de certains versets. Pour les noms propres, les noms de parenté et les surnoms qui se trouvent dans le Coran. Pour les identifications vagues auxquelles la tradition attribue un nom précis. Pour les noms de ceux à propos de qui est descendu tel ou tel passage du Coran. À cela, il faut aussi ajouter les noms techniques de la transmission du Coran et de la tradition avec leur définition précise. Après avoir consacré tant de chapitres pour exprimer exhaustivement la réalité, il est normal que l'auteur réserve quelques-uns à la conservation de cette réalité qui vient d'être dite, c'est-à-dire au recueil, à la mémorisation, à la transmission et à la récitation et à l'écriture. Le recueil du texte a été surtout l'œuvre pratique, dit l'auteur, des trois premiers califes, Ali n'ayant eu qu'un rôle d'incitation et d'encouragement insistant. Et ce sont les sept imams qui en ont réalisé la mémorisation canonique. Et c'est à partir d'eux qu'a été assurée la mémorisation continue. Cette mémorisation est codifiée par un certain nombre de règles qui définissent le devoir de se charger du Coran. La transmission du texte est scrupuleusement examinée par l'auteur, qui insiste sur la qualification de ces chaînes et sur l'exigence de leur authenticité maximum. La récitation donne lieu à des chapitres purement techniques très développés, comme celui de El Imel, la tendance à prononcer le A comme E, I, celui de la pause et de la reprise, celui de l'allongement et du raccourcissement des voyelles et des syllabes, celui de l'allègement de l'occlusive glottale et celui des bonnes manières dans la récitation. Enfin, l'écriture du texte se présente comme le sceau final de la conservation. Le tracé graphique du Coran est soumis à une infinité de détails qui le rendent très compliqué. Et cela est dû en partie à des phénomènes phonétiques tels que l'assimilation des consonnes ou leur manifestation, à leur occultation et à leur transformation. Nous venons de voir comment Essouyouti manifeste et réalise son obsession de dire et de tout dire dans ce manuel parfait des sciences coraniques. Le titre El-Itqan signifie la perfection à deux points de vue. D'abord, certes, celui de l'excellence et de la compétence, mais aussi celui de la complétude. Il est donc temps de nous demander le pourquoi de ce besoin urgent chez notre auteur. Ce besoin de tout dire. Personnellement, j'y vois deux raisons qui ne sont pas du même ordre. En premier, son tempérament. Et ensuite, l'héritage d'une conviction traditionnelle très ancienne et toujours actuelle. Essouyouti avait une haute conscience de lui-même et de son œuvre. Cela est clairement exprimé dans le parfait manuel à plusieurs reprises. J'y ai donné de claires explications, dit-il, et en cela, je n'ai pas eu de prédécesseur. J'y ai mis ce qu'on ne trouve dans aucun livre autre que celui-ci. Et cette conscience de sa valeur et de sa prééminence qu'il revendiquait dans les domaines de la tradition et du droit fut, en plus des raisons politiques et religieuses, la raison caractérielle qui contribua à l'opposer au sultan mamelouk, avec qui il avait des rapports très tendus, et tout particulièrement avec le sultan El-Ashraf Qaitbay. Il considérait les représentants mamelouks comme inférieurs scientifiquement et religieusement, malgré leur contribution à la haute éducation de la société égyptienne et à la transmission des sciences religieuses. Il alimenta également de célèbres disputes avec ses collègues savants et enseignants, du fait qu'il prétendait être le seul savant de son temps qui fut digne de ce nom, et donc le seul capable de pratiquer un véritable ijtihad et d'être considéré comme le vrai mujaddid de son époque. Incompris et rejeté, il finira dans une relative solitude dans l'île de Raouda. À partir de telles prétentions, on comprend qu'il ait eu envie de réaliser une œuvre totale et exhaustive dans le domaine de la connaissance pour surpasser tous les autres savants. Une summa à laquelle qui boirait n'aurait plus jamais soif, comme il le dit lui-même. Certes, cette vantardise fait partie d'un genre littéraire qu'on retrouve chez certains autres auteurs. Mais il faut dire aussi qu'on trouve le contraire, par exemple chez Fakhreddin Razi, à qui l'on fait dire « À la fin, la raison est une entrave ». Et la plupart du temps, l'itinéraire des savants aboutit à l'égarement. De la recherche intellectuelle de toute notre vie, nous ne retirons comme profit qu'un ensemble d'opinions incertaines et improbables. C'est ce qui lui faisait préférer la foi des vieilles femmes à celle des savants. Mais cet excès de modestie est aussi un genre littéraire. La seconde raison de cette obsession de la parole globale a ses racines dans l'héritage d'une conviction très ancienne. Tout part du verset 40 de la sourate An-Nahl 16 et de ses sept parallèles. Innama qawluna li shay'in idha aradnahu an naqula lahu kun fayakunu. Notre dire à une chose quand nous la voulons est uniquement de lui dire soit et elle est. Pour commenter ce verset, il faut d'abord savoir que la grande répartition du langage, selon le chapitre 57 du parfait manuel des Suyuti, est celle du langage informatif, el-khabar, et du langage performatif, el-insha, en fonction de laquelle tout le reste s'ordonne. Que veut-on dire par là? Dans le discours coranique, il y a les récits et les verbes énonciatifs qui composent le langage informatif qui sert à raconter ce qui est. Puis il y a les commandements et les verbes à l'impératif, ainsi que les verbes de volonté, de désir et de souhait, le vocatif et les serments, qui composent le langage performatif, qui sert à faire advenir ce qui sera. Reprenons donc notre verset pour le commenter en fonction de cette répartition du langage évoquée par Esyoti. Notre dire à une chose est uniquement de lui dire, est une information. Quand nous la voulons, est une performance. Soit est une performance. Et elle est une information. Dans ce verset, le performatif et l'informatif, autrement dit, l'ordre d'exister et le récit de ce qui existe, sont intrinsèquement liés par quatre artifices linguistiques. Le premier artifice est celui de la phrase double conditionnelle. Quand nous la voulons, Ida aradnahu est la condition short qui est performative. Et notre dire à une chose est uniquement de lui dire innama qawluna li shay'in an naqula lahu est la réponse à la condition el jawab qui est informative. Or, nous savons qu'entre les deux membres de la phrase double conditionnelle, il y a un lien intrinsèque de dépendance logique. Le deuxième artifice linguistique est l'étymologie. En effet, « shay'in », une chose, qui se situe dans la partie informative, est intrinsèquement lié à la volonté, aradnahu, nous la voulons, qui se situe dans la partie performative. Parce que arada est synonyme de sha'a, et sha'a et shay sont de la même racine. Ce qui confirme bien la connaturalité entre la volonté et la chose voulue. Le troisième artifice linguistique est le lien de conséquence entre le performatif « kun » « soit » et l'informatif « fayakunu » et « elle est » en raison du « fa » « et » qui est sémantiquement consécutif même s'il ne l'est pas grammaticalement puisque « yakunu » demeure au nominatif dans la lecture actuellement officielle. Mais il se trouve à l'accusatif « yakuna » dans d'autres lectures orthodoxes. Enfin, quatrième artifice linguistique, ce verset dans sa formulation est un exemple typique de sémitisme, à savoir « notre dire à une chose lorsque nous la voulons est de lui dire » Innama qawluna li shay'in idha aradnahu an naqula lahu. En effet, la chose existe déjà puisque Dieu lui parle avant même qu'elle ne soit voulue et créée. Ce qui illustre parfaitement le lien intrinsèque entre le performatif et l'informatif au point que dans le langage divin il y a coïncidence entre les deux. Nous avons analogiquement la même chose dans les vœux que nous formulons, par exemple, Barakallahu fik, que Dieu te bénisse. Le verbe est à l'accompli, Baraka. Donc la bénédiction est déjà réalisée au moment même où on la souhaite pour le présent et le futur. Pour Dieu, dire et produire sont donc un seul et même acte. Faisons un pas supplémentaire, toujours guidé par notre auteur, pour montrer que tout le Coran, et non seulement ce verset, indique ce lien intrinsèque entre performatif et informatif. Le Coran a deux débuts. Le début chronologique, sourate 96, 1 à 5, et le début liturgique, sourate 2, car il y a beaucoup de divergences au sujet de la descente de la Fatiha. Pour les uns, elle serait descendue à Mecque, pour d'autres à Médine, et pour d'autres encore à la fois à Mecque et à Médine, si bien que le recueil de Ibn Mas'ud ne la prend pas en compte. La partie chronologiquement initiale du Coran, sourate 96, 1 et 3, est un langage performatif. Iqra, récite. Elle se réfère à la récitation ainsi qu'à la science, allama, et à l'écriture, qalam. Tandis que la partie liturgiquement initiale, sourate 2, versets 1 et 2, est un langage informatif. Alif lam mim, dhalikal kitab. Alif lam mim, voilà le livre. Elle se réfère à l'écriture. Or, cette écriture consigne un langage total et globalisant, car Alif est une glottale, Lame est une palatale, et Mim une labiale. Autrement dit, métaphoriquement parlant, ce langage embrasse la totalité du dire, qui part de l'extrémité initiale de la glotte, passe par le milieu du palais et se termine à l'extrémité finale des lèvres. En conséquence, le même livre est à la fois et totalement performatif et informatif, selon deux points de vue qui se correspondent. Faisons un dernier pas. Dans le livre, Dieu emploie le langage performatif sous la forme impérative du dire, qul, dit, en s'adressant au prophète à 334 reprises. Ce qui signifie que, de même que Dieu fait initialement exister tout ce qui est, grâce à son dire, qawluna annaqula, de même il ordonne de façon continue au prophète de dire, qul, pour que toutes les choses se renouvellent sans cesse dans l'existence. Et le croyant musulman, qui a l'imitation du prophète, récite tous les jours une partie du Coran dans sa prière, permet ainsi à la création de continuer à exister grâce à son dire, qui n'est autre que le dire divin. La création est un livre qui contient les signes. Le Coran est ce même livre où les signes sont dits, énumérés et expliqués. La création existe initialement à partir du dire « kun ». Le Coran ordonne de dire sans cesse « kul » pour que la création soit maintenue dans l'existence. On pourrait se demander ce qui justifie ce lien entre le dire et le maintien dans l'existence de la création. Je crois que Fakhreddin Razi, dans l'introduction à son grand commentaire, pourrait nous aider à le comprendre quand il procède à l'étymologie majeure, al-ishtiqaq, al-akbar, de kalam et de kalima. Le discours et la parole. La racine kef, lam, mim, dans ces six combinaisons possibles, connote presque toujours l'idée de force et de puissance. À savoir, elle calme la blessure qui résulte d'une agression. Elle calme le parfait qui l'emporte sur l'imparfait. Elle l'ecme le coup de poing. Elle macoule le puits tari à partir duquel l'abreuvage du troupeau devient dur et difficile. Elle moulque le pouvoir de la possession. Et enfin, elle calme le discours qui frappe l'ouïe et impressionne l'intelligence. Ce serait donc la puissance et la force intrinsèques à ces trois lettres de la parole et du discours qui permettraient ce lien entre le dire et le maintien dans l'existence de la création. Arrivés à ce point, nous pouvons comprendre la motivation profonde des Suyuti, comme celle de beaucoup d'autres savants, qui ont l'ambition et l'obsession de tout dire pour que les choses ne sombrent pas dans le néant. Mais attention, ne nous méprenons pas. Il ne s'agit pas tant pour eux de conserver les choses à titre de simple mémoire dans des archives, mais de dire et de redire tout, sans cesse et à tout instant, pour que l'univers se maintienne dans l'existence. Une telle ambition n'est pas nouvelle, car la littérature musulmane, depuis l'origine, est pleine d'œuvres intitulées « Murni » qui cherchent à dispenser de toute autre source de connaissances, parce qu'elles prétendent tout dire, ou bien « Jamir »,« Jawamir »,« Majmour »,« Jumal »,« Kamil » et « Mahsoul » qui tentent de rassembler et de collectionner pour maintenir en vie tout ce qui a été dit et permettre de le répéter à l'infini pour que tout continue à vivre. Une telle ambition est toujours actuelle. Un auteur contemporain comme l'Algérien Kamel Daoud en fait le thème principal de son dernier roman, Zabor, ou les psaumes, paru en 2017. Le monde est sauvé, dit-il, grâce à ces longues séances d'écriture, proches de la prière ou du recensement, que je m'impose dans ma chambre quotidiennement. La création est un livre. Dieu dit « Kun » et l'univers existe. Puis il dit « Kul » et l'homme redit sans cesse la parole divine qui maintient la création dans l'existence. C'est dans cette grandiose vision de l'univers que s'inscrit l'œuvre encyclopédique des savants en général et l'Itqan des Suyuti en particulier. En guise de nota bene, Je voudrais faire part de mon étonnement devant le fait que la tradition chrétienne occidentale a modérément exploité l'interprétation latine du logos. In principio erat verbum, et verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Je crois que la prééminence du verbe, du dire, comme langage informatif et performatif par excellence, à l'origine de la première et de la seconde création, aurait pu donner une théologie plus développée qu'elle ne l'a été et que la tradition musulmane a su cultiver à partir d'une autre source au sujet de la création initiale et continue. Je vous remercie de votre attention.